le 33e épisode de BCBT, le podcast. Le podcast de tous les corps, toutes les silhouettes, toutes les femmes, pour vous convaincre que vous êtes belles comme chacune, belles comme toutes. Je suis Ariane Grimbach, diététicienne anti-régime, défendant la diversité des corps et souhaitant vous aider à vous sentir en paix avec le vôtre. Dans cet épisode, j'ai le grand plaisir de recevoir Lily Barbery-Coulon. Si vous fréquentez Internet, les blogs, les réseaux sociaux, vous connaissez peut-être Lily Barbery-Coulon, qui est une ancienne journaliste beauté et blogueuse, influenceuse, désormais également professeure de yoga. Je crois que sa notoriété a encore fait un bond ces dernières semaines avec la publication de son deuxième livre, La Réconciliation. La Réconciliation raconte comment elle a fait la paix avec elle-même et avec son corps, et comment elle s'est reconnectée à ses besoins profonds en faisant diverses rencontres et expériences. Je vous recommande vraiment de lire ce livre qui est passionnant, et j'en ai écrit un petit avis sur mon blog. Lily a répondu à diverses interviews, notamment sur des podcasts, autour de ce chemin de réconciliation, et donc j'ai eu envie de voir ça un petit peu autrement, et de l'interroger plutôt sur l'impact que ces différentes étapes de ce chemin ont eu sur sa fille, qui est aujourd'hui une préadolescente. Parce que c'est un des leitmotifs de ce podcast, vous aider, vous les femmes, à avoir une relation apaisée avec votre corps, avec la nourriture, pour que, si vous avez des filles, vous leur transmettiez cela. Bonjour Lily, je suis très heureuse de te recevoir sur ce podcast.
Bah, merci de me recevoir, je suis très contente aussi.
Lily, tu as déjà raconté sur ton blog et puis de façon beaucoup plus détaillée dans un livre qui vient de sortir, La Réconciliation, comment tu as été en conflit avec ton corps et avec la nourriture, tu as fait beaucoup de régimes, tu t'es réconciliée maintenant avec tout ça, tu as fait la paix. L'idée de ce podcast, c'est notamment d'aider les femmes à faire la paix avec leur corps pour casser un peu des espèces de transmissions intergénérationnelles, de régimes, d'obsessions de la minceur. Et donc, ce que j'aimerais, c'est qu'on explore un petit peu ça avec toi. Donc toi, tu racontes dans ton livre que tu as été préoccupée assez jeune et que tu as commencé les régimes très tôt. Est-ce que c'était quelque chose qui était courant dans ton environnement ?
Oui, moi j'ai toujours vu les femmes de mon entourage et de mon entourage proche, donc ma mère, mes tantes, j'ai toujours entendu en tout cas les femmes qui faisaient figure d'exemple autour de moi, être soit au régime, soit dans des périodes où elles faisaient moins attention, mais il y avait cette idée qu'il fallait être sous contrôle. Donc il n'y avait pas du tout une relation libre dans l'alimentation qui m'était proposée. J'ai vu ma mère tester énormément de régimes frappadingue dans les années 80, manger tout un poulet par exemple quand c'était la mode des régimes dissociés ou que du fromage blanc 0%. Donc oui, vraiment, j'ai grandi avec cette idée que manger juste à sa faim, écouter son corps et s'arrêter quand on n'a plus faim, c'était pas quelque chose qui était logique pour moi.
C'était pas le modèle proposé.
C'était le modèle
du contrôle.
Voilà. Après, on mangeait pas n'importe quoi et n'importe comment. Les repas étaient plutôt sains. Ma mère a toujours tenu à ce qu'il y ait beaucoup de légumes à table. Mais il y avait aussi cette idée qu'il y avait des aliments bons pour le corps et mauvais pour le corps. Donc ça m'a permis de construire énormément de cognitions négatives ou positives avec les aliments. Avec l'idée que les haricots verts seraient meilleurs pour la santé que le chocolat, et qu'il y avait des aliments dont on pouvait se ruer dessus quand on se lâchait, et puis d'autres qui restaient interdits dans des périodes où il fallait faire attention, et puis d'autres qu'on devait manger en quantité phénoménale, comme par exemple les légumes. Or, il m'aura fallu plus de 40 ans pour comprendre que c'était complètement faux. Voilà.
Tout à fait. Donc, je recommande vivement aux personnes de lire ton livre, hein, parce que tu expliques tout ce chemin, d'ailleurs, qui n'est pas qu'un chemin vis-à-vis de la nourriture, mais qui est un chemin où tu as eu beaucoup de prise de conscience par des rencontres, des réflexions pour faire te réconcilier. Donc, tu as une petite fille. Qui a 12 ans, donc maintenant tu es assez tranquille. Est-ce que... Donc elle a été forcément témoin d'une période où tu étais un peu plus en guerre avec ton corps. Est-ce qu'elle a vu des choses? Est-ce qu'elle a commenté? Est-ce que toi, tu étais... tu en parlais? Tu avais des fois, ce que me racontent les patients, tu t'auto-critiquais ou elle était quand même éloignée de ça?
Alors, j'ai... tout de suite était très consciente quand elle est née il y a 12 ans que il allait falloir faire extrêmement attention à ne pas reproduire ce que moi j'avais connu, à savoir d'entendre constamment ma mère parler de régime et aussi d'entendre constamment ma mère dire je me trouve moche, je suis trop grosse. Donc j'ai tenté, mais je dis pas du tout que j'y suis arrivée, mais,
non, mais
j'ai
tu étais déjà
tenté,
consciente de ça.
J'étais hyper consciente que les repas ne devaient pas être un sujet de conflit avec moi-même ou de conflit avec les autres. Pour autant, il y a quelqu'un qui m'a énormément aidée dans ma relation à ma fille et par rapport à l'alimentation, c'est le docteur Philippe Grandsen, qui est pédiatre, qui est à la retraite, je crois, aujourd'hui, mais qui a été le pédiatre de ma fille et qui a écrit des livres incroyables et fabuleux qui m'ont beaucoup porté, comme « Bébé, dis-moi qui tu es », qui allait à l'encontre des conseils de puériculture, comme par exemple de donner à manger à son bébé autant qu'il le souhaite, et non pas de lui donner, 120 ml de lait, parce qu'on nous a dit que c'était 120 ml de lait. Et lui, vraiment, m'a tout de suite, parce que je l'ai allaité aussi, il m'a tout de suite dit, quand vous l'allaitez, vous ne savez absolument pas ce qu'elle prend, vous n'avez aucune idée. Et donc, elle sait. Donc, fiez-vous à, sa capacité à être rassasiée et à vous dire. Et puis, si elle mange un peu trop, elle régurgitera et ce ne sera pas très grave. Elle va apprendre, elle aussi, avec vous. Donc moi, ça, c'est quelqu'un qui m'a énormément aidée, parce qu'en fait, en m'apprenant à devenir mère de cet enfant et à la nourrir comme elle en avait besoin et à écouter ses besoins, il a, en quelque sorte, il ne fait pas partie de ce livre, mais il m'a remise aussi sur un chemin d'écoute de mon propre corps. Mais ça n'a pas évidemment suffi, et je me souviens que autour de l'âge de 2 ans, ma fille a commencé à refuser tout ce qu'il y avait de la couleur dans l'assiette pour ne plus réclamer que des pâtes, du pain, du riz. Et donc lui, il appelle ça l'adolescence des bébés. Il parle de la période du blanc, hein, chez les tout-petits. Et moi, ça m'inquiétait beaucoup parce que en fait, elle mangeait plein de légumes et puis d'un seul coup, elle refusait tout ce que j'avais préparé avec toute mon affection, les baby cooks, les machins. Puis en plus, comme à l'époque, j'ai toujours une tendance perfectionniste, mais à cette époque-là, je me mettais une pression phénoménale. Et mon enfant, évidemment, faisait partie de toute ma to-do list de « il faut que ça colle dans tous les sens, que je puisse cocher toutes les cases ». Donc forcément, au lieu de me faire aider et d'acheter de temps en temps des repas préparés, je voulais tout faire moi-même. Bon, je pense aujourd'hui que je ferais aussi tout moi-même, et pour des raisons plus de santé que voilà. Mais donc, je prenais très mal le fait qu'elle ne veuille plus manger ni de courgettes, ni de carottes, ni tout ce que j'avais préparé. Et à la crèche, pourtant, comme il y avait moins de pression sur l'alimentation et que les puéricultrices à la crèche avaient autre chose à faire que de s'attarder à savoir pourquoi un enfant ne voulait pas manger des petits pois ou des carottes, bizarrement, elle mangeait de tout à la crèche, mais à la maison le soir, elle ne réclamait qu'un biberon de lait. Et j'étais venue le voir à la veille de grandes vacances en lui disant « je suis très ennuyée parce que là, il ne va pas y avoir la crèche, donc du coup, elle va manger, je ne sais pas très bien ce qu'elle va manger, mais elle va peut-être manger que du lait et du riz et des pâtes. » Et il m'a dit « et alors ?» Et alors là, je lui ai dit « ben, je ne sais pas, 5 fruits et légumes par jour, pour moi, à la limite, c'est pas grave, mais elle, c'est un tout petit enfant. » Donc il m'a dit « ah non, mais vraiment, mais alors, vous avez envie que votre enfant elle ait des troubles du comportement alimentaire plus tard ?» Alors là, évidemment, j'ai plus rien dit.
Ça a fait écho.
Et il m'a dit, parce que en fait, vous allez lui foutre une paix royale, et si elle a envie de manger que du blanc pendant 2 ou 3 ans, vous inquiétez pas, elle aura pas de carence, et elle va aller très bien. Oh, alors là, j'étais sidérée, je n'en revenais pas. Il m'a dit donc, à table, il va y avoir un plat familial où elle pourra piocher dedans. Mais si, en attendant, elle ne veut manger que des pâtes, vous n'allez certainement pas la forcer à manger autre chose. Vous allez arrêter de faire le clown en faisant l'avion avec la petite cuillère, parce qu'on n'essaye pas de tromper un enfant sur ce qu'il est en train de manger. Elle va choisir ce qu'elle met à l'intérieur de son corps. Et puis,
quel fabuleux pédiatre.
Il était incroyable. Il était incroyable. Et il m'a dit, et vous allez la laisser libre par rapport à ça. Et vous verrez que s'il n'y a plus d'enjeux affectifs à table sur « je dois manger pour montrer à ma mère que je l'aime » ou pour faire plaisir à mon papa, qui était comme moi tout aussi inquiet, hein, j'étais pas la seule à être inquiète de son alimentation, ça avait aussi atteint mon mari, on s'est détendu complètement par rapport à ça. Et miraculeusement, en quelques semaines, elle s'est remise à manger totalement normalement. Alors ça a été une leçon pour moi incroyable, et pour ma fille, bien sûr, puisqu'elle m'a montré qu'elle avait une connaissance aiguisée, en fait, et de ses sensations, mais aussi qu'elle était capable de capter tous les enjeux émotionnels et invisibles à table. Donc elle ne mangeait plus pour nous faire plaisir, elle mangeait parce qu'elle avait faim et parce que les couleurs lui faisaient envie ou pas. C'était comme ça. Aujourd'hui...
Ça s'est poursuivi au fil du
temps. Ça s'est poursuivi avec des moments, avec... c'est pas un long fleuve tranquille, d'éduquer un enfant, de l'accompagner. Il y a des moments où à nouveau on peut avoir des inquiétudes, et j'avais ce pédiatre formidable qui me rappelait la base et qui m'a totalement détendue, parce que je me souviens, on se colle la pression, mais on accepte aussi d'écouter la pression des parents autour de soi qui nous disent « Ah ben non, mais moi, il adore les brocolis, ah bon, mais il boit encore du lait, ton enfant, mais comment ça se fait ? Mais le lait, tu sais, c'est très mauvais pour la santé, après 2 ans, tous les mammifères, dadadadada. » Et en plus, moi, de temps en temps, j'allais voir des naturopathes qui me disaient « Oh, quelle horreur, horreur, malheur, vous donnez du lait à votre enfant, c'est très mauvais, bon. » Moi, je ne bois pas de lait parce que je le digère pas bien j'en achète très peu. Mais quand ma fille, aujourd'hui, à l'âge de 12 ans, encore aujourd'hui, elle a envie de boire du lait, j'achète un lait de qualité, mais elle boit du lait et je ne la juge absolument pas de boire du lait. En revanche, on discute beaucoup d'alimentation parce qu'elle est suffisamment grande aujourd'hui pour savoir que les choix qu'elle fait ont pas forcément une incidence sur sa santé, parce que c'est pas parce qu'on mange un biscuit industriel qu'on va tomber gravement malade.
C'est une des phrases que je répète souvent à mes patients, rien d'occasionnel n'est grave.
Exactement, mais j'essaye vraiment de lui faire prendre conscience de la notion de ce qui est festif et de ce qui est je veux pas du tout qu'elle ait l'impression que le chocolat c'est quelque chose d'interdit ou voilà, mais je veux qu'elle prenne conscience qu'il y a des très bons chocolats et qu'il y en a des moins bons, et que c'est pas grave si on en mange un moins bon qui est très sucré et qui est pas fait avec des bons ingrédients, mais qu'elle prenne conscience de la différence.
C'est-à-dire plus à la fois la question du goût et la question aussi de la provenance de qui a fabriqué par rapport à
absolument.
Tes valeurs à toi
ouais,
aussi.
Je veux qu'elle puisse au fur et à mesure développer, mais je le propose pas à table, hein, c'est plutôt des conversations qu'on a, mais ça me semble essentiel. Et là je suis contente parce que je viens de découvrir une nouvelle marque de chocolat qui est incroyable, vraiment avec une conscience qui est placée dans chacun des ingrédients. On sent que le produit est sublime, mais on le sent pas que en regardant la table des ingrédients, on le sent en bouche. Et en fait, on en a fait l'expérience il y a quelques jours à table, on était tous les trois. Et mon mari, qui n'est pas spécialement dingue de chocolat, m'a dit, attends, c'est exceptionnel. Et ma fille a dit, maman, il faut qu'on achète plus que ce chocolat-là. Oui, bon, c'est pas le même prix. Donc voilà, mais je trouve que c'est intéressant, voilà, en termes de goût. Et puis aussi, aujourd'hui, alors, est-ce que ça heurtera son rapport à l'alimentation ? Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a aussi des discussions sur le système qu'on nourrit. Moi, c'est essentiel qu'à 12 ans, elle est suffisamment grande pour comprendre que si elle mange du jambon sous vide, quel est le système qu'elle nourrit derrière. Je ne mange pas de viande, mon mari et ma fille mangent de la viande, je ne mange pas tout un tas de produits qu'ils consomment eux, mais quand je retrouve trop de paquets issus d'industries qui détruisent, je leur rappelle juste quel système et de quel monde voulez-vous pour demain.
Non, mais je pense que ça, elle est tout à fait en état
voilà.
de le
Avant, c'était plus, quoi. C'était trop tôt peut-être pour le faire, mais aujourd'hui, voilà, je me permets.
Et du coup, donc effectivement, du coup, tu le proposes. Je pense qu'elle a, enfin, t'en as déjà parlé. Ça, elle a sûrement un équilibre entre vous deux, d'exemples divers entre ces deux parents.
C'est sûr. Mais petit à petit, je me rends compte quand même que mon mari, mon mari est très grand et très mince, en tout cas, c'est son expérience, donc c'est comme ça qu'il peut en parler. Quand il dit que quand il mange comme moi, il maigrit encore plus et il ne souhaite pas maigrir plus. C'est quelqu'un qui préférerait prendre quelques kilos et qui a bien du mal à en prendre.
C'est sa morphologie, donc
c'est comme ça. Il brûle tout ce qu'il mange. Donc on mange pas exactement de la même manière, mais je suis très contente de petites victoires. Par exemple, lorsqu'il choisit de manger de la viande, il va systématiquement chez le boucher. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a longtemps eu, et d'ailleurs j'en achetais du jambon industriel sous vide. Il y a longtemps eu des lardons déjà découpés, dessalés, etc. Donc au secours. Donc ça n'existe plus. Il y en a plus dans notre frigo. Et on a changé de crèmerie dans le sens où on ne fait plus nos courses aux mêmes endroits. On fait plus ce gros plein de courses qu'on faisait dans des supermarchés de quartier. Maintenant, on achète beaucoup plus en petite quantité par rapport à nos besoins.
Donc ça, je crois que c'est important, effectivement, du point de vue de vos valeurs, vos convictions, vos choix, et puis d'une alimentation saine. Est-ce que, si on revient à la question plus de la silhouette et des moments où toi, tu étais en guerre avec ton corps, cette période où tu avais pris du poids, ou tes variations de poids, est-ce que tu as réussi à la préserver de ça? Est-ce qu'elle te sentait préoccupée? Est-ce qu'elle était triste? Est-ce qu'elle s'interrogeait? Est-ce que tu as des souvenirs de ça?
Ah, ça s'arrête un peu net. Suspense. J'espère que cette interview vous intéresse. Je l'ai partagée en deux pour préserver à peu près le format habituel de ce podcast. Mais exceptionnellement, je ne vais pas vous faire attendre un mois et donc la suite sera diffusée vendredi prochain. C'était le 33e épisode de BCBT le podcast. BCBT le podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur arianegrimbach.com, habituellement le premier vendredi du mois. À bientôt !